Voilà, prions. C'est vrai, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être tous ensemble, réunis, dans ta présence, selon ta promesse. Et nous sommes dans la joie aussi de pouvoir te rendre ce culte, de pouvoir maintenant ouvrir tous ensemble ta parole et écouter ce que tu as à nous dire pour nous encourager, pour nous fortifier en toi. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin que tu nous aides à faire silence dans nos cœurs et à ne pas être pris par toutes sortes de pensées pendant la prédication qui n'ont rien à voir avec toi. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous en toi, permets-nous d'être les enfants de Dieu qui marchent dans la fidélité à ta parole, dans l'amour de ton nom. Seigneur, parle aussi à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour te servir. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, du secours de ton Esprit Saint, et nous te remercions parce que tout cela, c'est ton œuvre. Nous te louons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et nous ouvrons mon livre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Et on va lire du verset 11 au verset 22. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ? Et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti... Pardon, je crois que je me suis répété là. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Qui parmi les enfants peut dire un mot sur Melchisédek? attention, après je vais demander aux parents. Personne ? Alors, les parents, qui peut dire deux mots sur Melchisédek ?
Une figure de Christ. Une préfiguration de Christ.
Roi de Salem.
Roi de Salem, oui, tout ça c'est juste.
Il y a l'hypernumère.
L'hypernumère. Mmh. Bon. En parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le psaume 110, nous trouvons le serment de l'Éternel, où il est dit « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Nous avons vu la dernière fois que ce point est capital pour notre compréhension des Écritures, notre compréhension du message de la Bible, de la révélation progressive du plan de Dieu pour notre monde. Melchisédek, on l'avait dit, est le personnage clé qui nous permet de faire l'articulation entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qui nous permet de tenir les deux alliances ensemble, de comprendre comment on est passé du régime de la loi de Moïse, avec ses multiples prescriptions cérémonielles, au régime de la grâce et de la liberté. Comment on est passé de la loi des œuvres à la loi de la foi. Melchisédek est le personnage clé parce que son sacerdoce, je vais dire tout à l'heure ce que ça veut dire sacerdoce, son sacerdoce est bien plus ancien que le sacerdoce lévitique qui est apparu avec la loi de Moïse. Le sacerdoce perpétuel de Melchisédek est donc premier, parce qu'on voit déjà ça dans la Genèse, tout au début de la Bible. Et comme on l'a vu la dernière fois, on peut dire finalement que le sacerdoce lévitique n'est venu que pour un temps. C'était comme une parenthèse. Parce qu'avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, le peuple de Dieu a reçu un nouveau souverain sacrificateur dont le sacerdoce est éternel à la manière de Melchisédek. Et du coup, le sacerdoce lévitique a perdu toute légitimité, toute utilité. On va dans un instant parcourir cette deuxième partie, cette deuxième partie du chapitre 7, pas tout à fait verset par verset, mais presque, en nous arrêtant chaque fois sur la signification qui nous paraît la plus naturelle, et petit à petit, nous pourrons entrer comme ça dans la compréhension de tout le texte. Mais avant, justement, il faut que nous revenions sur les termes de sacerdoce lévitique et sacerdoce tout court. Parce que ce sont des termes qui reviennent souvent, et ce sera quand même mieux si nous comprenons de quoi on parle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un sacerdoce au sens religieux du terme ? En gros, on peut dire que c'est une fonction, une charge, une mission qui vient de Dieu. C'est la fonction de ceux qui rendent les rapports entre Dieu et les hommes possibles, dans les deux sens, entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. À cette charge, à cette fonction du sacerdoce est liée une dignité. C'est-à-dire que le sacerdoce doit inspirer le respect, la considération, un peu comme le ministère pastoral, parce que c'est un don de Dieu. Et maintenant, comment allons-nous décrire le sacerdoce lévitique ? D'abord, on dit qu'il est lévitique parce que c'est exclusivement des hommes de la tribu de Lévi, donc une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi, qui recevaient cette dignité du sacerdoce. Maintenant, de manière simplifiée, on peut dire ceci. Les sacrificateurs, qu'on appelle aussi les prêtres, c'est donc eux qui exercent le sacerdoce entre Dieu et le... ils jouaient le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Et de quelle manière? Eh bien, comme on vient de le dire, de deux façons, dans la direction montante et dans la direction descendante. Premièrement, dans une direction montante. Les prêtres devaient assurer la sainteté du peuple devant Dieu. Et si cette sainteté était souillée par le péché, ce qui arrivait souvent, les prêtres avaient pour mission de restaurer, de ramener cette sainteté du peuple. Vous savez comment ? Par les sacrifices. Hein ? Exactement. C'est quoi un sacrifice ?
Une offrande.
Oui, mais je veux dire, que faisait-on dans le sacrifice ?
On tuait un animal.
Voilà, on tuait un animal, et la mort de l'animal, le sang qui coulait, permettait de laver la faute. Et en fait, la personne qui avait commis un péché, ou le peuple, s'identifiait avec l'animal, et disait, ben voilà, le châtiment qui est tombé sur l'animal, c'est le châtiment que je méritais. C'est ça. Une identification. Donc, par le moyen des sacrificateurs, le sacrificateur rétablissait la sainteté du peuple par les sacrifices et toutes sortes de rituels, un nombre incalculable de rituels. C'est surtout de ça que notre passage parle quand nous lisons qu'il y a un changement de loi ou que la loi est abolie. Au verset 18. Les prêtres avaient donc la charge de représenter le peuple devant Dieu et de présider aux cérémonies du culte qu'on lui rendait. Ça, c'était donc la direction montante, du peuple vers Dieu. Maintenant, la direction descendante, de Dieu vers le peuple. Là, le sacerdoce des prêtres, qu'on appelle donc le sacerdoce lévitique, consistait à enseigner et à bénir le peuple de la part de Dieu. Il s'agissait bien sûr de l'enseignement de la loi des cinq livres de Moïse. Quand on parle de la loi a beaucoup de significations, mais ici, c'était la loi, c'était les cinq livres de Moïse, le Pentateuque. Mais aussi l'enseignement justement des rites et des coutumes rituelles, des prescriptions cérémonielles qui étaient liées au culte, à l'adoration de l'Éternel. Alors on voit que les deux directions, du peuple vers Dieu et de Dieu vers le peuple, étaient étroitement complémentaires. Voilà, ça c'est juste quelques petits éclairages sur le sacerdoce lévitique, qui, je l'espère, vous permettront de suivre un peu mieux le fil de la prédication. Alors on commence maintenant à parcourir ce texte du jour, et nous sommes au verset 11 que nous commençons de lire. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, et je m'arrête tout de suite. Ici, vous êtes d'accord, nous comprenons que par le sacerdoce lévitique, la perfection n'a pas été possible. Mais de quelle perfection parle-t-on? Eh bien, comme le péché était dans le monde, et que tous les hommes en étaient atteints, c'était donc bien l'imperfection qui était la norme, et qui l'est encore aujourd'hui, bien sûr. L'auteur précise tout de suite après que s'il nous parle du sacerdoce lévitique, c'est parce que la loi qui avait été donnée au peuple par Moïse, elle avait été donnée sous ce régime du sacerdoce lévitique. C'est-à-dire que la loi et le sacerdoce lévitique étaient interdépendants. La loi aurait même été sans aucune valeur sans le sacerdoce lévitique. Elle n'aurait servi à rien. Tout simplement parce que il n'y aurait pas eu de pardon possible. Et que la loi aurait tout de suite et définitivement condamné le peuple d'Israël à cause de ses innombrables péchés. Et la colère de Dieu aurait immédiatement anéanti le peuple, s'il n'y avait pas eu le sacerdoce lévitique avec, entre autres, les sacrifices pour les péchés. Je reprends le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? On avait déjà vu ce que voulait dire être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. En fait, ça veut dire que tous les sacrificateurs, selon la loi de Dieu, devaient être de la lignée d'Aaron. Ils se sont succédés depuis Aaron, le frère de Moïse, de père en fils. Ce que ce verset 11 dit, c'est que la sacrificature, qu'on peut donc aussi appeler la prêtrise, instituée ou fondée sur la lignée des fils d'Aaron, cette prêtrise-là, ce sacerdoce-là, n'a rien amené à la perfection. Alors que si ça avait été le cas, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu envoie un autre sacrificateur, c'est-à-dire un sacrificateur qui soit hors de la lignée d'Aaron. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi un sacrificateur, donc un prêtre et même un grand prêtre, pourquoi un tel sacrificateur pris en dehors de la famille d'Aaron a-t-il été nécessaire? Eh bien justement pour rendre la perfection possible. Je serais même tenté de dire, pas seulement possible. Enfin, puisque la lignée d'Aaron n'a pas pu le faire, Dieu a envoyé un autre sacrificateur pour que le peuple de Dieu puisse être rendu parfait. Que les véritables chrétiens parviennent à atteindre la perfection. Question. C'est important d'atteindre la perfection? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? D'abord, c'est quoi la perfection? Qu'est-ce que c'est la perfection? Ça, c'est une question. Êtes-vous parfait? Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs, ouais. Mm-hmm. Ok. Les enfants de Dieu qui m'écoutez, êtes-vous parfaits? Attention. Hein. Bon, ne répondez pas.
Aux yeux de qui? Oui, aux yeux de Dieu, oui.
D'accord. Mais pourquoi est-il important d'être parfait?
Pour ressembler à ce Père qui est parfait.
Voilà. Parce que dans la présence du Père, il ne peut y avoir que des parfaits. Et au ciel, quand on sera devant le Père, il ne pourra y avoir que des parfaits. Il ne pourra pas y avoir des pécheurs. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, sans la perfection, sans que nous soyons rendus parfaits, la vie éternelle dans la présence de Dieu est impossible. Et cette vie éternelle, qui est la vie du royaume de Dieu, commence déjà aujourd'hui. Si nous sommes en Christ, si nous sommes attachés à lui par la foi. Cette nécessaire perfection, cette perfection obligatoire, est déjà la nôtre. Ah oui? Vous le remarquez dans votre vie? Moyennement? Non pas que nous ne péchions plus, non pas que nous ayons déjà en nous-mêmes atteint la perfection, mais elle est nôtre parce que le Christ est notre vie. Qu'est-ce qui permet de dire que le Christ est ma vie? Philippiens 1:21. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il est notre vie? Eh bien, si nous sommes morts avec lui et ensuite ressuscités en lui, ce qui est le passage obligé pour être appelé enfant de Dieu, Romains 6, 1 à 11, alors la vie du Christ est en nous. Parce que c'est en lui que nous sommes ressuscités. Et donc, si nous vivons de sa vie, sa perfection, elle aussi, nous habite. Petite précision, quand je dis que la vie du Christ nous habite, que le Christ est en nous, il s'agit bien entendu de l'Esprit Saint qui fait sa demeure dans le cœur des croyants. Mes amis, si nous savons ça, eh bien, cette certitude-là d'être habité par la perfection du Christ devrait nous conduire à renoncer au péché. N'est-ce pas? Puisque la Bible affirme que dans la mort du Christ, nous sommes morts. Nous aussi, morts au péché. Ainsi, dit Paul en Romains 6, 11, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et encore, Colossiens 3, 1 à 4, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, aimez les choses d'en haut, et non pas celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Magnifique. Allons plus loin, dans notre passage, verset 12. « Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Le sacerdoce changé. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est qu'on est passé du sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. On quitte la lignée d'Aaron. Et puisqu'on change de sacerdoce, forcément, nécessairement, dit le texte, la loi qui était liée au sacerdoce lévitique doit elle aussi être changée. Pas seulement le sacerdoce, la loi aussi. C'est comme si l'auteur était en train de nous dire à chaque sacerdoce sa loi. Avec le sacerdoce lévitique, il y avait telle loi. Avec le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, il y en a une autre. Mais attention, ça ne veut pas dire que le changement est total, qu'il n'y a pas de similitude ou des choses qu'on ne va pas retrouver dans les deux lois. Quand on change de voiture, la nouvelle peut être complètement différente de l'ancienne. La couleur, la puissance, la marque, la grosseur... Mais les deux ont un moteur, les deux ont un volant, quatre roues et des freins, heureusement. Donc le changement de loi n'est pas total. Ce qui est évident, si nous nous souvenons, qu'il y a de grandes similitudes entre les deux sacerdoces de Melchisédek et le sacerdoce lévitique. Donc le changement dans cette question de la loi se trouve principalement dans le fait que le Christ, notre souverain sacrificateur, est d'une part l'accomplissement lui-même de toutes les prescriptions cérémonielles de la loi, et d'autre part qu'il amène à la perfection tout ce que la loi de Moïse avait laissé d'inachevé. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. La loi, Évangile de Jean, premier chapitre, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ou encore Galates 3, 24, ainsi la loi a été comme un précepteur ou un conducteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous comprenez un peu le changement dont il est question ? Nous ne sommes plus sous le régime de la loi qui nous condamne, mais sous la grâce. C'est-à-dire la grâce par laquelle, au travers de notre foi, de notre attachement à Jésus-Christ, c'est son obéissance à lui, l'obéissance du Christ qui devient nôtre, en fait. C'est sa justice dont il nous a revêtus et par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est vraiment une autre loi. Maintenant, dans notre texte, l'auteur veut certainement faire avant tout référence, comme je l'ai dit au début, aux prescriptions liées au sacerdoce lévitique, en particulier tout ce qui concerne les sacrifices d'animaux, les rituels pour obtenir le pardon de Dieu. Je reviens juste au verset 17 de Jean, qu'on vient de lire. Il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors ça ne signifie pas que la loi de Moïse, que dans la loi de Moïse, la vérité était absente. Pas du tout, puisque c'est Dieu qui l'avait donnée, cette loi. Mais ça signifie que nous comprenons l'utilité, nous comprenons à quoi ultimement la loi de Moïse devait servir. On le comprend par la lumière que nous en donne le Christ. Versets 13 et 14 de notre chapitre 7. En effet, celui qui dit ces choses, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire, c'est évident, que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Pour ce qui concerne le sacerdoce, Moïse a dit quelque chose à quelle tribu ? Lévi. Je disais, pour quelle tribu Moïse a-t-il dit quelque chose ? C'est pour la tribu de Lévi. Et là, donc, le texte nous dit, pour Juda, il n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Au verset 11, l'auteur parle d'un autre sacrificateur. Et nous voyons ici de qui il voulait parler. De qui ? De notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne le nomme pas encore. Pour le moment, il dit simplement qu'il s'agit de notre Seigneur. Et comment savons-nous que le Seigneur Jésus appartient à la tribu de Juda ? Comment on peut savoir ça ? Eh bien, en consultant par exemple la généalogie qu'on trouve dans Matthieu ou dans Luc. Et là, par exemple, dans Luc, au verset 33 et 34, nous lisons, par rapport à la généalogie du Seigneur, à un moment donné, quand on descend dans la liste, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais en fait, déjà l'Ancien Testament parlait du Messie, du Sauveur du monde, comme devant provenir de la tribu de Juda. Par exemple, quand le Saint-Esprit appelle le Christ fils de David. Vous avez déjà entendu cette expression, fils de David. David étant bel et bien issu de la tribu de Juda. Mais déjà au début de la Bible, au chapitre 49 de la Genèse, quand Jacob rassemble ses fils, qui sont donc les ancêtres des tribus d'Israël, il les appelle pour leur dire ce qui leur arrivera dans la suite des temps. Et clairement, pour son fils Juda, il annonce la souveraineté et la royauté éternelle de l'un de ses descendants. Et ce sera le Seigneur Jésus. On revient à notre passage d'Hébreu. La fin du verset 12 disait qu'il était nécessaire, puisque le sacerdoce était changé, qu'il y ait aussi un changement de loi. C'était nécessaire parce que la loi donnée à Moïse reposait uniquement et exclusivement sur le sacerdoce lévitique. Alors, on a déjà touché un mot. Seule la tribu de Lévi, pour le service du temple, et plus précisément la famille d'Aaron pour la sacrificature, avait été désignée par Dieu d'entre toutes les autres tribus d'Israël. Et comme Jésus, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, n'est pas un descendant de Lévi, mais de Judas, mais que néanmoins il a été désigné par Dieu pour être souverain sacrificateur, ça signifie effectivement que la loi qui va reposer dorénavant sur ce nouveau sacerdoce soit changée. Si Jésus avait été de la tribu de Lévi, on aurait pu admettre que la même loi sur le sacerdoce telle qu'elle avait été pratiquée jusque-là continue d'être suivie. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, toutes les prescriptions cérémonielles, les rituels précis et scrupuleux, rigoureux, l'apparat, les habits liturgiques, toutes ces choses que Calvin, dans son commentaire, appelle la pompe. Il dit ça par rapport à l'Église romaine de son temps. Donc toutes ces choses n'ont plus aucune raison d'être, parce que la loi a été changée. Alors ici, je voudrais quand même juste préciser que si nous avons été affranchis, libérés de toute cette pompe, ça ne veut bien entendu pas dire que nous pouvons nous permettre n'importe quoi dans le culte que nous rendons à Dieu. Le Nouveau Testament nous donne des indications, des modèles de culte ou de manière de célébrer le culte. Et puis, alors surtout, il nous faut veiller à ne pas tomber dans la légèreté, dans la frivolité, dans l'insignifiance ou encore dans la médiocrité. Parce que nous nous tenons ensemble dans la présence de Dieu. Pas d'un copain. Et notre préoccupation première n'est pas de passer un bon moment ensemble quand on vient le dimanche matin ou qu'on se réunit pour les études bibliques, même si on passe un bon moment ensemble. C'est pas ça notre préoccupation première. Mais c'est d'offrir, de lui offrir nos vies en sacrifice vivant. Lui, à lui qui s'est offert le premier pour nous sauver. Nous nous réunissons pour célébrer son amour, pour l'aimer en retour de tout notre être, heureux et joyeux d'être ses enfants, mais en même temps humiliés par nos manquements, par nos péchés. Versets 15 à 17. Jusqu'ici, ce que nous venons de dire nous permet déjà de comprendre pourquoi il a été nécessaire de changer de loi. Mais l'auteur pousse la démonstration plus loin, parce qu'il dit que cette nécessité de changement devient encore plus évidente quand un autre sacrificateur surgit, qui lui, ce nouveau sacrificateur, est à la ressemblance de Melchisédek. Alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu en partie. Mais ici, l'auteur précise, étant donné que cet autre sacrificateur, Jésus, est à la ressemblance de Melchisédek, ça signifie qu'il est institué, qu'il est établi, non pas, écoutez bien ça, non pas d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Parce que ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors ici, ça paraît peut-être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de loi d'une ordonnance charnelle qui est mise en opposition avec la puissance d'une vie impérissable? Et en fait, c'est assez simple, vous allez voir. Ce petit problème de compréhension nous ramène en fait à la lignée des sacrificateurs, qui devaient tous être de la famille d'Aaron, de père en fils. Cette ordonnance-là, cette loi, est charnelle, dans le sens que c'est bien selon la chair, c'est bien selon la descendance charnelle humaine que dépendaient tous les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Ça, c'est l'ordonnance charnelle. Et c'est ça qui permettait au peuple, c'est cette ordonnance charnelle-là qui permettait au peuple d'avoir continuellement, et sans que ça s'arrête jamais, des sacrificateurs en fonction, parce qu'ils se succédaient de père en fils. Donc les sacrificateurs de l'ancienne alliance étaient nommés à cette charge d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Mais pas le Seigneur Jésus, puisqu'il sort, lui, de la tribu de Juda, et non de celle de Lévi. C'est pourquoi notre Seigneur a été établi selon la puissance d'une vie impérissable ou indestructible, à la ressemblance de Melchisédek. Selon la puissance d'une vie impérissable. Eh bien, justement, Melchisédek, comme on l'a répété au début, est un souverain sacrificateur dont on ignore entièrement les origines et dont la Bible affirme qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est sacrificateur à perpétuité. Le Saint-Esprit dit même, par la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'Abraham, quand il a payé la dîme du butin à Melchisédek, il l'a payé à quelqu'un dont il est attesté qu'il est vivant. Ça, c'est vraiment étonnant. Mais si la Bible le dit. Son sacerdoce est perpétuel. Ce qui est donc bien différent de la loi sur la dîme, hein, puisque là on est en train de parler d'Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. Donc son sacerdoce à Melchisédek est perpétuel, il dure toujours. Ce qui est différent de la loi sur la dîme, qui est inscrite dans la loi de Moïse, et qui est donc liée au sacerdoce lévitique, où tous ceux qui ont payé la dîme sous le sacerdoce lévitique l'ont payé à des hommes mortels. C'est pour ça que les sacrificateurs se succédaient de père en fils. Tout le temps, ça n'arrêtait jamais. Jésus, notre grand souverain sacrificateur, a été établi selon la puissance d'une vie éternelle, à la ressemblance de Melchisédek. Ce qui veut dire que son sacerdoce, donc celui du Fils de Dieu, est éternel. De toute façon, on sait que Jésus est éternel, est éternellement le Fils de Dieu. Depuis le chapitre 5, c'est la sixième fois que nous trouvons le Seigneur Jésus explicitement associé à l'ordre de Melchisédek. Et au verset 21, ce sera la troisième fois où il est textuellement dit « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est dire l'importance de cette vérité pour notre compréhension de l'Évangile. Compréhension à la fois de la souveraineté de Dieu, qui agit toujours selon ce qu'il a prédestiné d'avance. Et, comme nous le voyons ici, nous comprenons que Dieu n'agit pas d'une manière linéaire ou statique, toujours la même chose. Non, toute la Bible fait la démonstration qu'il y a un développement de l'alliance de Dieu, que Dieu se révèle, qu'il révèle ses plans de façon progressive. On voit ça dans la Bible, hein? Par exemple, nous avons un avantage évident sur les croyants de l'ancienne alliance. Vous savez ce que c'est cet avantage? C'est un avantage évident.
Pour toujours.
Oui, tout à fait. Oui. Je voudrais presque dire encore plus évident que ça, c'est que nous avons toute la parole de Dieu. On a toute la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, ils en avaient déjà pas mal. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Et si nous avons toute la parole de Dieu, ça augmente sans aucun doute notre responsabilité. Si nous avons toute l'Écriture, qu'en faisons-nous? Et ce fait, alors, justement, que tout n'avait pas encore été révélé au peuple d'Israël, nous le voyons par exemple au verset 10 du chapitre 9 de notre épître, où il est dit que les préceptes de l'ancienne loi avaient été imposés seulement jusqu'à une époque de réformation. Époque qui est donc arrivée avec la venue du Christ sur la terre, notre nouveau souverain sacrificateur. Passons maintenant aux versets 18 et 19. Qui dit, verset 18, qui dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Quelle est cette impuissance et quelle est cette inutilité dont il est parlé? À quoi ou par rapport à quoi la loi de Moïse a-t-elle été impuissante? Qu'est-ce qui lui a été impossible de faire et qui, par conséquent, ne permettait pas d'être introduit dans une meilleure espérance, c'est-à-dire dans une vraie espérance vivante et vivifiante? Vous le savez? En résumé, la réponse est celle-ci. La loi de Moïse a été totalement impuissante à ôter les péchés et à amener à la perfection ceux qui la mettaient en pratique. C'est ce que le verset 19 répond en partie. Mais les quatre premiers versets du chapitre 10 sont un peu plus explicites. On peut déjà les lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, ne peut jamais amener les assistants à la perfection, ceux qui sont là pour offrir les sacrifices. Autrement, si ça avait été le cas, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Eh bien non. En fait, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Une loi, donc, impuissante, mais aussi inutile. Pas inutile dans le sens qu'elle ne servait à rien, mais son utilité n'était justement pas d'amener à la perfection ce qui en dépendait. La loi permettait seulement au peuple d'Israël de rester, ce qui était déjà pas mal, elle permettait seulement au peuple d'Israël de rester sous la bénédiction de l'Éternel, de ne pas être détruit sous la colère de Dieu à cause du péché. Mais il n'y avait rien de plus que ça. Maintenant, il est aussi évident que la loi, considérée cette fois de manière générale, puisque jusqu'à présent, on parlait plutôt de la loi en relation avec le sacerdoce lévitique, mais si on considère la loi de manière plus générale, elle non plus n'a pas pour mission de produire en nous la perfection, la justice, la sainteté. On retiendra juste trois passages du Nouveau Testament qui sont très clairs à cet égard. Romains 3:20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Galates 3:18 et 19. Si l'héritage des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est qui la postérité? Pardon? Ouais. Alors c'est juste, mais en fait c'est le Christ, et c'est parce que nous sommes attachés au Christ que nous participons aux promesses. Oui. On devient la postérité parce que nous nous attachons au Seigneur Jésus. Oui, tout à fait. Galates 3, 22-25, un dernier texte là. L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Hein. On voit ici que c'est lui la postérité, qui est, et que c'est par la foi en lui que ce qui a été promis nous est aussi donné. Et ce passage continue. « Avant que la foi vînt, soit venue, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un précepteur, un conducteur. La loi était comme un conducteur pour nous conduire au Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne dépendons plus de la loi qui nous condamne à cause du péché. » Et ça, c'est le changement de loi dont nous sommes en train de parler, mais ici de manière encore plus étendue. Changement qui nous permet, par le sacrifice de notre Seigneur, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, lavé, purifié de tous nos péchés, ce qu'était incapable de faire le sacerdoce lévitique. Parce que c'est lui, c'est Jésus, notre vrai et notre seul médiateur, celui qui peut seul nous faire entrer dans l'amitié de Dieu. On comprend d'autant mieux ce que voulait dire l'auteur de la lettre aux Hébreux quand il écrit que la loi n'a rien amené à la perfection et que sur cette question, elle était même impuissante et inutile. Donc il affirme que ses ordonnances, les sacrifices d'animaux, tout ce qui a trait aux cérémonies du culte de l'ancienne alliance, tout ça est aboli, abrogé, supprimé. Hein ? Il y a ce terme d'abolition dans notre Bible. On pourrait alors se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Peut-on vraiment avoir la certitude que tout ça est aboli, que tout ça a été supprimé ? C'est bien la question que devaient se poser les premiers lecteurs de notre épître. Et c'est aussi la question que devraient se poser tous ceux qui aujourd'hui ont introduit dans le culte qu'on rend à Dieu toutes sortes de rituels qui n'ont rien à y faire, qui sont en fait une négation du sacerdoce du Christ, un refus de le recevoir comme notre souverain sacrificateur pour toujours. La réponse à cette question, peut-on vraiment en avoir la certitude que tout ça s'est supprimé ? Elle est au verset 20. Oui. Tout ce que nous sommes en train de dire est vrai, parce que ce changement de sacerdoce et ce changement de loi n'a pas eu lieu sans serment. Les Lévites, oui, ils devenaient sacrificateurs sans serment, simplement parce que cette charge leur était conférée de père en fils. Jésus, non, il l'est devenu avec serment, par la voix de son Père, l'Éternel Dieu, qui a juré et qui ne s'en repentira pas, en lui disant « Tu es sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Si vous considérez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, alors croyez ses paroles. C'est ce serment de la part de l'Éternel qui nous assure que notre Seigneur Jésus est le garant d'une alliance plus excellente que l'ancienne. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir une grande assurance, une très grande assurance, en venant à lui, en nous attachant à lui par la foi, parce que avec lui, avec notre souverain sacrificateur, nous entrons dans le repos de Dieu. Amen.